Je viens de mettre le roller, mais qui regarde-le.
À 17h, tu... À 17h15, max.
Très bien ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Très équilibré. Parfait.
Ah bah tant mieux.
Super.
Alors bonjour à tous. Avant de lancer la table ronde, alors moi je suis Jonathan Hanley, un des membres de l'équipe qui met en place cette journée depuis 2 ans maintenant. Je suis chargé aussi de vendre ces 2 livres particulièrement. Ce sont 2 livres qu'on a négociés avec le distributeur pour les avoir à la vente à 5 euros chacun. Alors je veux dire, ici c'est une journée du réseau des artistes. C'est pas le paramédical. Moi, je dois ramener ces bouquins en Bretagne en train demain. Et il n'y a pas de kiné ici. Donc, il n'y a vraiment aucun avantage à ce que je sois obligé d'aller voir mon kiné parce que j'ai dû porter des livres en rentrant en Bretagne. Alors, s'il vous plaît, achetez-les. Celui-là, de Bill Edgar, il n'y en a plus beaucoup dans le dépôt. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas les derniers qui existent. Il est en vente à 5 euros. Bill le sait très bien, bientôt il n'y en aura plus du tout. Alors si vous le voulez, à mon avis c'est maintenant ou jamais. 5 euros.
Ça c'est de la pub.
Collector. Voilà, collector. Très pour la musique. Celui-ci, imagine Le Chrétien et l'art de Steve Turner. Il y a une quinzaine d'années, les éditions Farrell, pour qui j'avais commencé à écrire à l'époque, m'ont dit tu t'intéresses à l'art, tu t'intéresses à la foi et la pratique artistique, tu pourrais pas nous écrire un livre destiné à la communauté artistique en France. J'ai dit, ça m'intéresserait, mais je connais quelqu'un qui a déjà écrit le livre qui est bien meilleur que ce que moi je pourrais jamais écrire. C'est Steve Turner. Steve Turner, dans ma vie, bon, c'est un journaliste de rock à l'origine, poète, publié, un chrétien très avisé et avec un réseau au niveau des artistes énorme. Quand j'ai lu Steve Turner, ça a été une épiphanie pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait là quelqu'un qui mettait sur la page ce qu'au fond de moi je pressentais. J'ai grandi dans un milieu très conservateur avec énormément d'interdits culturels. Et ben, pour moi, mon horizon culturel, c'était La Belle et le Clochard et les films de connaissance du monde. Voilà, c'était mon horizon culturel.
C'est déjà bon, c'est bien, c'est bon ça.
Imagine Le Chrétien et l'art, un livre qui a été écrit particulièrement pour la communauté telle qu'on a ici aujourd'hui. Et il est aussi en vente pour 5 euros seulement. Ce serait tellement bien que j'en ai aucun à rapporter en Bretagne.
Juste tous me regarder comme ça, je fais une photo.
La photo.
Ça, pas de flash. Avec un livre chacun.
Alors, nous avons ici nos 2 intervenants de ce matin et 2 acteurs du milieu artistique dans le cas de Fabie est là avec nous depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Christophe nous a rejoint cet après-midi, et puis nos 2 intervenants que nous avons déjà entendus et qui se sont déjà présentés. Je vais quand même me permettre de représenter certains d'entre vous, n'étiez pas forcément là ce matin. Alors, Fabi est artiste peintre, habite à Arzal, du côté sud de la Bretagne, artiste peintre depuis 20 ans. Elle nous l'a dit ce matin, je le répète. Foi et peinture depuis le début. Alors, elle ne s'est pas gênée de me dire, j'ai 42 ans, ça fait 20 ans depuis que je suis inscrite à la Maison des Artistes. Et donc, est-ce qu'on pourrait tout de suite passer juste le clip pour voir un peu de l'œuvre de Fabie ?
Voilà, derrière.
On a le droit de se retourner, hein ?
Ça va, non ?
C'est juste un petit clip que j'ai posé sur ma page Facebook hier qui résumait les quelques dernières toiles, c'est ce qu'elle voulait dire.
Voilà, ça vous donne une idée. Donc, je disais Christelle, qui est actuellement travaille pour un théâtre, qui est au contact des acteurs, et puis il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi du cinéma, si j'ai bien compris, dans ce que tu fais. Donc, qui nous a parlé ce matin de la manière dont on peut gagner de l'argent, en fait, cet équilibre ou pas, de cet équilibre entre l'argent, l'ambition et la foi chrétienne. Christophe Zimmerlin est producteur éditorial chez à Présence Protestante. Donc, je ne sais pas si vous regardez Présence Protestante. Il y a quelques années, je l'ai regardé pour la première fois parce que d'habitude, le dimanche matin, je n'étais pas devant la télé.
Il y a 60 ans.
et donc, on entendra Christophe tout à l'heure dans son rôle de responsable, de décideur au niveau de la programmation télé Présence Protestante. Ensuite, Bill, que nous avons déjà entendu à deux reprises, y compris derrière son piano, et qui nous a parlé de sa pratique et de sa perspective en tant qu'apologète, en tant que théologien, en tant que pianiste, en tant qu'auteur. Je vais commencer par Fabi, te poser une question. Qu'est-ce qui t'inspire en tant qu'artiste? Nous venons de voir deux ou trois de tes toiles. Où tu vas chercher ton inspiration? N'oubliez pas le micro, les amis.
Là, vous m'entendez bien? Non, il faut que j'aille.
Il y a un petit problème. Ça te donne un micro, mais si je l'allume pas... Voilà.
Donc, ce qui m'inspire en tant qu'artiste, c'est d'abord, évidemment, c'est Dieu. Mais c'est Dieu au cœur... Ma peinture, elle est en fait comme le journal de bord d'une chrétienne sur la terre. Je peins exactement là où je suis et là où je vis le Christ, comme vous l'avez vu dans le petit vidéo, il y a des périodes difficiles où les vents soufflent, et ben je pense que ça me fait, et comment au travers de ça je m'accroche à Dieu, où je le vois, comment j'entends, et comment je doute aussi, comment j'ai peur. Donc c'est voilà, ce qui m'inspire, c'est au-delà de Christ, c'est sa parole qui prend vie en moi et comment est-ce qu'elle arrive dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, toutes ces facettes me parlent. En fait, je vis ma relation intime et personnelle avec Christ et pouf, ça arrive sur la toile.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pannes sèches?
Alors,
qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là?
Alors, je peins sans relâche depuis que j'ai 15 ans. Je suis professionnelle depuis mes 22. Ce n'est jamais arrivé. Le pire, c'est quand on partait en vacances et que j'arrêtais de peindre pendant une semaine et que je me retrouvais avec la tête. Mais c'était horrible parce que tout arrivait. J'étais obligée de les ranger dans des boîtes en attendant d'entrer chez moi, en fait. Et c'est quelque chose qui s'est régulé au fur et à mesure. Je n'ai jamais été en manque d'inspiration. Même en manque de matériel, c'est arrivé de l'inspiration jamais.
Alors, tu m'as dit que tu vis cet équilibre entre la foi et la peinture depuis le début.
J'ai toujours peint ma foi. Je ne sais pas comment dire. J'ai toujours voulu crier aux autres tout ce que ça faisait en moi, en fait. Et bah, il s'avère que j'aimais dessiner ou peindre et ça s'est fait tout seul. J'aurais eu une belle voix, j'aurais peut-être chanté, mais la peinture, le dessin, c'était simple pour moi. Par contre, il a fallu qu'avec les années, je travaille mon dessin. Tu parlais de travail ce matin. Moi, je peins entre 8 et 10 heures par jour, tous les jours sauf le dimanche. Le dimanche, je travaille l'après-midi. Mais et où ma peinture d'aujourd'hui est plus affinée que ce qu'elle était il y a 5, 10, 20 ans, voilà, et j'espère qu'elle n'est pas finie, quoi.
Alors, pour nous rapprocher de la thématique de la journée, quelqu'un t'a dit au début, si tu veux réussir dans ce métier, surtout ne te marie pas et ne fais pas d'enfant.
Ouais,
on va dire... Pourtant, tu es maman de...
Trois enfants,
c'est ça, ouais.
Oui, okay. 20 ans, 18 et 14. Et... Donc, ouais, on m'a dit...
Comment as-tu fait?
J'ai dit « waouh ». En plus, le jour où on me l'a dit, j'étais mariée, et la personne ne le savait pas, et j'étais enceinte du deuxième. Donc, j'ai dit « ça commence mal ». Ce qui était difficile au début, quand pour me confronter au milieu de l'art et aux autres, je faisais la peinture de rue, en même temps que je peignais ma foi, mais je faisais des concours de rue. Donc, on arrive le matin, on installe son chevalet dans la rue avec les autres, et on peint toute la journée. Le soir, nos toiles passaient devant un jury et on vend aux enchères directement. Et,
Et là, il y avait tous ces peintres qui revenaient du Sénégal, de New York, de... Et moi, je revenais juste de chez moi. Où mon mari avait eu la gentillesse de s'occuper des petits pendant que j'allais faire mon week-end dans la rue. Et il y avait un vrai décalage entre ma vie d'artiste et leur vie d'artiste qui semblait être vraiment... ils couraient le monde, enfin bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû accepter avec Dieu. Je dis, bah écoute, voilà, je suis à toi. C'est ton histoire que tu dois faire à travers moi. En fait, c'est très très important de se poser la question quand on est artiste, peintre, chrétien. Déjà, est-ce qu'on veut être chrétien au travers de son art? Parce qu'on peut très bien être chrétien, faire de la déco, enfin, il n'y a pas de péché à faire autre chose que de l'art chrétien. Mais si on veut faire de l'art chrétien et qu'on se dit être l'outil de Dieu, c'est très très important de ne pas essayer de faire rentrer Dieu dans son plan, mais de comprendre que Dieu a un plan pour nous et de suivre le plan de Dieu.
D'accord. Ça se voit que tu as souvent eu à réfléchir et à t'exprimer éventuellement sur ce genre de thématiques. Les gens t'ont mis au défi d'expliquer le rapport entre ta foi et ta pratique professionnelle.
Ben, en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que quand vous faites une exposition, ça marche, que vous vendez bien, ben, tout le monde dit oh, « super, elle est bénie ». Et puis bah, quand ça marche plus, ça fait un mois, deux mois, trois mois, et pourtant vous avez cette même ferveur, que vous peignez cette fois de la même façon, que Dieu vous parle, que vous êtes vraiment en connexion directe avec le Seigneur, mais que bah, ça ne vend pas quoi. Bah, là d'un seul coup, les gens ne vous regardent plus de la même façon. Alors vous commencez à manquer de matériel, vous ne pouvez plus louer des salles pour aller exposer, vous êtes un peu plus retranché à l'atelier. Et ces mêmes gens qui trouvaient que vous étiez vachement bénis, parce que quand même c'est normal vu ce que vous faites pour Dieu, et ben ils se disent « Ah, peut-être que non, finalement. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as à faire ? Est-ce que... » Même ma famille prend peur dans ces cas-là, parce que nous, mon mari est mon collaborateur artistique depuis 10 ans, donc on ne vit que de ça tous les deux, tous les cinq. Et lui, il fait mes expositions partout en France, et puis moi, je reste à l'atelier à faire ces 8 à 10 heures de peinture. Et ben même nos amis proches, les chrétiens qui nous sont proches, la famille, ils prennent tous peur, en fait. Ils disent « Mais vous allez aller jusqu'où ?» Parce que... quand on marche par la foi, on ne garde pas une poire pour la soif. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on est ici pour parler argent, on a deux découverts autorisés, on a deux comptes, et sur les deux, c'est 750. Et bien, on y va jusqu'au 750. Donc, on est régulièrement à moins 740 sur l'un et moins 730 sur l'autre, et des fois, ben, après, c'est l'interdit bancaire. Alors, le problème, c'est que quand on va jusque-là, on n'a plus les moyens d'aller se chercher un autre travail. On n'a plus les moyens de mettre de l'essence pour aller loin, on n'a plus les moyens de prier. Alors, c'est là que c'est difficile, c'est-à-dire que c'est là que vous remettez tout le temps ça en question. On est obligé, moi, à chaque toile, je ne peux pas me reposer sur mes acquis, quoi, ni mes connaissances en Dieu. Je suis obligée de les vivre du matin au soir, tous les jours. Tant pis pour ce que les autres pensent, mais moi, je m'en ai sûre.
Est-ce que tu as un espoir? Quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire, une direction dans laquelle tu aimerais aller, une ambition que tu n'as pas encore réalisée?
Alors non, parce que à chaque fois que j'ai eu Dieu avait d'autres ambitions pour moi. D'accord. Et d'autres projets, donc là je sais juste que cette année, en fait c'est plutôt l'inverse, moi Dieu me met des choses à cœur et je fais oh non, mais comment tu veux quoi. Comme je l'ai expliqué là depuis septembre, je travaille sur des personnages bibliques. Et du coup, si on m'avait dit il y a un an, tu devrais peindre des personnages bibliques, je crois que je serais rentrée dans la personne en disant mais t'as vraiment bien compris ce que je fais. Oui. Sauf que là, c'est Dieu qui me l'a demandé, donc c'était devenu une évidence. Et en fait, voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt je me laisse traverser par ce que Dieu me demande. Et ça devient le projet. Donc là, cette année, je fête mes 20 ans de carrière et je cherche de grands espaces pour mettre tout mon univers, toutes les toiles que j'ai, pour vraiment faire rentrer les gens dans quelque chose de grand d'un point de vue de l'univers, et qu'ils vraiment ils voyagent dans cette foi et trouvent peut-être des réponses, enfin, évidemment, j'espère. Okay.
Merci. Dernière petite question. Une toile à peu près de cette taille-là, que tu aurais peinte, tu la vends en combien ?
Ça, ce serait un petit peu moins de 2000 euros.
D'accord, voilà. Ok, merci. On est dans le concret là.
Oui.
Je suis à 0,46 centimes du centimètre carré. Voilà. Exactement.
Ça, c'est, voilà. Ok, c'est ta marraine que tu as mis en place, c'est ça?
D'accord. Ben, comme ça, il n'y a pas les gens. On pas à se demander si j'y ai passé 20 ans ou si j'ai refait 3 fois. Ouais, ou si j'ai... Okay. Ça ne les regarde pas.
0,46 centimes.
J'ai été à beaucoup plus cher. Carré. Et puis j'ai dû diminuer un peu pour me. Voilà, c'est ça. Et voilà, on fait comme ça. Comme ça, il n'y a pas non plus que je croise des artistes qui disent celle-là, elle est très chère, j'ai pas envie de la vendre. Bah, garde-la. Ouais. Non, parce qu'il faut être. Enfin, nous, on part du principe qu'il faut être juste aussi avec le public, et donc on a trouvé ce barème, et il varie au fil de la carrière.
Oui, merci, merci pour cette touche, vraiment, alors là, pratique, comme je m'y attendais pas. Franchement, c'est excellent. Bill, théologien, pianiste, auteur, apologète, quelle place occupe la créativité dans ta vie à toi ?
Eh bien, j'espère qu'elle occupe une grande place dans tous les domaines que tu as cités. Quand j'écris des livres, c'est un peu comme toi, je cherche à être inspiré, que Dieu me donne des pistes, des portes ouvertes. Et en jouant de la musique, j'ai un orchestre hein, de 5 pièces, 6 pièces, et on doit s'entendre ensemble, ce qui se fait. Mais dans le jazz, il y a des règles, enfin, le plus souvent non dites. Quand ça marche bien, on est dans un même esprit. Le saxophoniste va aller par ici, alors les autres, on essaie de le suivre. C'est un peu un dialogue, quoi. Donc, le mot créativité est pour moi un tout petit peu un mot piège parce que Dieu est le vrai créateur, Bereshit Bara. Nous, on refait, on recrée, c'est une recréation. Dans un monde où il nous a donné tous les moyens et il nous a donné un esprit qui est capable de rendre grâce à notre créateur ou alors de se détourner de lui et faire notre propre œuvre. Et c'est une lutte constante pour essayer d'être fidèle dans ce domaine et ne pas loucher dans quelques idolâtries. J'y arrive pas. Je voudrais que cela caractérise donc tous les domaines de ma vie.
Est-ce qu'il t'est arrivé dans tes périodes de ta vie de te rendre compte que ça fait longtemps que je n'ai rien créé ou que je n'ai rien recréé et de te demander où est passée l'inspiration, comment retrouver, ou comme Fabi, tu n'as jamais eu de panne sèche?
Si, ce que je fais tous les jours, c'est d'enseigner. Et alors j'ai des conférences qui sont préparées à l'avance. Et ce qui peut arriver, c'est que on peut ne plus être d'accord avec soi-même. on peut arriver sur une conférence où j'ai des notes et je dis mais ça va plus, ça c'était bien l'année dernière. Il faut que je reprenne. Alors il y a des périodes un peu, si tu veux, les appeler sèches. Et puis pour corriger les copies, il faut beaucoup d'inspiration. ça peut arriver. Je me suis béni dans mon travail parce que le Westminster où je travaille, j'ai un accord avec cet institut qui veut que je donne tous mes cours à l'automne et en hiver. Et le printemps, je suis libre pour voyager, écrire, donc je suis ici.
Donc ici, oui.
Alors là, je reprends mon souffle, je respire un peu et je suis de l'attaque à l'automne.
D'accord, je vois. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un artiste, un chrétien qui est arrivé à te dire quelque chose du genre je veux servir Dieu, je veux le glorifier et je veux aller très loin au niveau de l'art, de l'ambition, j'ai l'ambition d'être, de réussir dans la musique ou dans un autre domaine artistique. Et comment se glorifier soi-même et glorifier Dieu en même temps? Qu'est-ce que tu réponds dans ce genre d'interrogation?
Moi, je répondrai en général que cette sorte de début n'est pas très sain. Être un artiste, vouloir peindre, créer, écrire de la poésie, composer à la gloire de Dieu, oui, bien sûr, très bien. Mais de là à être le plus grand, le plus influent, je crois que ça, c'est pas notre problème. Mmh. Le problème, c'est d'être fidèle au jour le jour. Et si Dieu nous permet d'être bien connus, tant mieux, mais pas toujours, parce que c'est un lourd fardeau qu'on peut porter. Moi, j'ai des amis qui sont artistes archi connus, j'ai des amis qui sont théologiens très connus. C'est pas facile, hein, parce qu'ils doivent gérer toutes sortes de défis, de demandes qu'on leur fait. Alors, moi, je crois mieux vaut être très modeste. Ma mère était peintre et on habitait à Genève. Et alors, elle avait un professeur de peinture. Et le premier jour des cours, elle mettait, il y avait une toile, elle commençait à dessiner. Et il est venu avec un énorme pinceau, il a fait un grand X là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? C'est parce que pendant 2 ans ou 3 ans, vous n'aurez pas d'œuvre accomplie, vous aurez des choses très imparfaites. Et juste pour vous le rappeler, j'efface ce qui aurait pu être. Et alors, elle a beaucoup appris avec ça, parce qu'elle s'est dit, aujourd'hui, c'est
violent.
Je ne suis pas capable d'être un maître. Alors, plus tard, bien sûr, elle est devenue beaucoup plus libre et compétente. Vraiment un artiste compétent. Et ça, on ne peut pas devenir compétent en l'espace de 24 heures. Mmh. Dans mon domaine de jazz, les gens pensent que « Ah, mais tu improvises, mais c'est facile. » Ben non. c'est pas ça qu'on fait. Donc, il vaut mieux taire ces voix qui disent « Ah, je vais être... le prochain Rembrandt pour la gloire de Dieu. » Probablement pas. Mais même si c'était le cas, regardez sa vie.
Merci. Merci beaucoup. Alors, Christophe, la télé, c'est ça, hein?
Oui, oui.
Alors,
je suis un vidéopateur. La télé, c'est pas du tout de l'art. Hein.
J'ai une question. La télé, les grands médias, pour beaucoup de chrétiens, moi je connais beaucoup de chrétiens pour qui c'est quelque chose, le rêve de christianiser les médias. Si seulement God TV existait partout, etc. Il y en a qui s'y fait. Ça s'appelle l'enfer. Okay, merci. Enfin, ce rêve de christianiser les grands médias, production cinématographique, télévision chrétienne, et puis de l'autre côté, il y en a des gens, il y a énormément de chrétiens, ils vivent, ils regardent peut-être la télé, ils utilisent Internet, mais pour eux, c'est un autre monde, c'est une bastion impénétrable, imprenable. Que réponds-tu à ces deux points de vue?
Je crois que la surabondance nuit à l'efficacité. Peut-être, je serais un peu de l'avis de Johan. Et puis, peut-être que ce qui est important de préciser aussi, c'est que je suis dans une situation très très particulière qui est due à la laïcité à la française. Donc je m'occupe de Présence Protestante. Présence Protestante, c'est depuis 60 ans une demi-heure de programme télévisé, ça varie un petit peu les durées, etc., sur France 2. Et cette année, 62 ans pour Présence Protestante, et cette année, le jour du Seigneur fête ses 70 ans. C'est un des plus vieux programmes de la télévision française, et tout ça c'est dû à nos ancêtres qui se sont, nos ancêtres, nos aïeux qui se sont battus pour une laïcité à la française, dans laquelle chaque religion a le droit de s'exprimer. Donc, pour dessiner ce portrait, sur France 2, tous les dimanches matin, il y a des programmes d'abord bouddhistes, ensuite, je crois que c'est les musulmans, les juifs, les orthodoxes, les chrétiens orientaux, les protestants, et protestants au sens large, et les catholiques. Et voilà, donc ça c'est une chance que nous avons, qui existe dans très peu de pays, et on nous regarde parfois comme des omnis, hein, quand on va, voilà, les gens de GovTV, je pense que voilà, l'État vous paye pour faire des programmes chrétiens, oui. Alors on a cette place-là, c'est une place privilégiée, parce que tout est payé par France Télévisions, tout est payé par les impôts, la redevance. Et puis on a donc on est un petit peu sur le il faut comprendre ça pour comprendre qu'on est un petit peu sur le fil, c'est-à-dire que on est aussi dans une position un petit peu différente de l'artiste qui a un contact direct avec son public, avec les gens qui achètent des toiles, qui entendent, etc. On est plein d'intermédiaires et on est donc sur ce fil du rasoir où il faut présenter ce que sont les protestants, il faut montrer des cultes télévisés, il faut exprimer une foi, mais voilà, il faut faire ça avec égard pour tout le monde, ceux qui sont très loin de la foi, comme ceux qui vivent très quotidiennement. Et il y a un devoir de pédagogie, et puis au milieu de tout ça, et je m'arrête là, au milieu de tout ça, il y a un enjeu économique fort, puisque la télévision, c'est, Johan, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est, voilà, alors c'est peut-être pas 300 000 euros par programme, mais un culte télévisé va coûter 40 000 euros, 50 000 euros, voilà, sur Protestant, en fait, on a fait le compte, on a travaillé ensemble, il y avait 70 personnes en backstage, alors ça comprenait la salle, le Zénith, mais ça, il y avait beaucoup de monde pour la télévision aussi, sur un culte, il y a 22 personnes qui travaillent pendant deux jours, etc. Donc on est sur cet équilibre financier-là qui impose beaucoup de choses. Voilà. Donc juste aussi pour... voilà. Moi je travaille à la Fédération protestante, et c'est la Fédération protestante en fait, et, cette activité est financée par France Télévisions sur ordre du CSA et de l'Assemblée nationale, etc. Et le politique a beaucoup à faire là-dedans aussi. Voilà. Donc on est dans un monde un petit peu entre deux. C'est encore plus flagrant dans le cinéma, tu as évoqué le cinéma tout à l'heure, dans lequel le registre économique est encore plus fort. Nous, notre unité, c'est pas le centimètre carré, pour la télévision, c'est l'antenne, c'est la minute à l'antenne. Donc la minute antenne, j'avais calculé une fois, on doit être autour de 1500 euros la minute, à peu près, quand on veut bien produire, et puis maintenant ça baisse, évidemment, ça baisse. Et puis au cinéma, alors là, c'est peut-être 1500 euros la seconde, parfois. Hein. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, voilà.
Alors tu as grandi, tu m'as dit tout à l'heure, dans les milieux des églises libres, un peu de mennonites aussi, un peu de méthodistes. Tu as eu
des gens ici qui pourront témoigner.
et milieu évangélique. Tu as utilisé ce beau terme patchwork évangélique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Y compris dans ta vie d'église, de don chrétien contemporain.
Ouais.
Tu as élevé des enfants dans les églises évangéliques en France. Ouais. Tout ça, tu réconcilies comment le monde dans lequel, bon, je sais que tu travailles dans la télé, mais ta télé religieuse, tu peux me dire, mais il n'y a pas un décalage parfois, il n'y a pas un grand écart à faire
entre quoi, la vie personnelle et le...
entre ta vie de personnel de chrétien et le milieu dans lequel tu évolues au niveau professionnel, au niveau...
Alors il y a quelques anecdotes par rapport à ça dans ma vie qui ont été fondatrices, comme la réflexion qu'on vous a faite que vous avez rapporté tout à l'heure. En fait, il y a déjà un événement fort, c'est que je me posais la question de dans quel milieu je vais travailler à la sortie de mes études. Et donc, je commençais à être intermittent du spectacle, quoi, j'allais vers ça. Et puis, il s'est trouvé que la même semaine où on a appris que mon épouse attendait le premier enfant, Célestin, fan de Hard Rock maintenant, 19 ans, voilà. On m'a proposé un travail exceptionnel sur pas loin des Champs-Élysées, au cœur de la production. Alors, c'était un métier affreux, j'allais être commercial, donc on allait parler d'argent, on allait parler de produits, de production, quelle honte, parler d'argent dans les milieux artistiques, etc. Et en fait, c'était absolument extraordinaire parce que j'ai pu fréquenter de très nombreux plateaux de tournage, de cinéma, je connais beaucoup de monde dans le milieu du cinéma. Alors ça m'a appris une chose, j'étais du côté des directeurs de la photographie, je travaillais pour Fuji pour les pellicules argentiques, donc j'ai vu... Voilà, qu'on parlait d'argentique, et la base du cinéma comme de la télévision, c'est la lumière. Et je pense que là-dessus, dans les milieux artistiques, alors, moins en musique, mais on se retrouve beaucoup. C'est qu'au commencement, la lumière, c'est quoi, voilà. La base, c'est la lumière, quand même. Voilà, sans ça, il n'y a rien. Et donc, ça m'a ouvert grand les yeux, et oui, il y avait des tensions parfois, même à ce petit niveau, puisque j'étais juste pas grand-chose, il y avait des tensions parfois entre ma foi, ma vie personnelle et les milieux que je fréquentais, voilà. Mais l'essentiel, c'est d'être fidèle à ses convictions soi et de mesurer la part que l'on a dans chaque projet, dans chaque... très récemment, là, en mi-janvier, on a eu une matinée œcuménique sur présence protestante avec des chrétiens orthodoxes, des chrétiens orientaux, des catholiques, etc. Et évidemment que je ne partage pas toutes les convictions de toutes les personnes qui étaient réunies sur ce plateau et pour ce programme. Mais on partage quand même des choses. Mettons en valeur ce qu'on partage plus que ce qu'on ne partage pas. Et je crois qu'il faut être fidèle et constant, oui, sur la durée. La durée, c'est, voilà, 20 ans, c'est une belle durée, magnifique.
Voilà. Merci. Alors, je précise quand même pour tout le monde, vous aurez l'occasion, vous, de poser des questions à tous nos quatre intervenants dans quelques minutes. Donc, j'aurais dû le dire au début peut-être, mais voilà, vous préparez, et puis tout à l'heure... la parole sera à vous. As-tu vécu des critiques, Christophe ? Est-ce que des chrétiens sont venus te voir en te disant ouais. « t'aurais pas dû » ou « t'aurais dû » ?
La première critique que j'ai vécue, c'est une personne, on est au moins deux à l'avoir connue, c'était mon grand-père, qui m'a dit, quand j'étais assez adolescent, je pense, il m'a dit « Christophe, il y a deux métiers que tu ne dois pas faire, c'est le commerce et avocat. » Il n'avait même pas imaginé les métiers artistiques. Parce que pour lui, c'était déjà la compromission. Voilà. Il était cheminot, famille paysan, famille ainsi, donc déjà, c'était dur. Donc ça m'a commencé, puisque mon premier vrai métier, ça a été commerçant, quoi, on va dire, donc bon, voilà. Et puis, oui, évidemment, il y a toujours eu des tensions. Et moi, j'aime beaucoup, on a eu des conversations récemment, à vous entendre, j'aime beaucoup dire qu'en fait, voilà, il faut rester humble. J'ai rencontré beaucoup d'artistes aussi qui étaient très arrogants, de grands créateurs, qui allaient révolutionner le monde, etc. Je me suis beaucoup attaché très tôt à l'art populaire. J'aime beaucoup l'art populaire, la musique populaire, et le cinéaste que je suis depuis le très très longtemps, depuis les années 80, c'est Spielberg. Et c'est quelqu'un d'assez humble en fait, fond. Oui. C'est quelqu'un de d'approchable, etc. Et voilà, les grands artistes, les très grands artistes, ils restent humbles. Et voilà, les enjeux d'argent, les enjeux d'ego, les enjeux matériels. Ils les comprennent et on peut les partager et on a aussi chacun notre vécu, chacun notre foi, chacun nos aspirations et on peut partager ça de façon humble. Et un artiste qui va vous dire tu dois croire ça, tu dois voir ça dans mon œuvre, etc. J'ai interviewé aussi, j'ai fait de la radio, j'ai interviewé beaucoup de gens et chaque fois que j'interviewais un réalisateur, il refusait de me dire quel était le message qu'il y avait dans son œuvre parce que c'est à chacun de s'en emparer. Ça aussi, ça a été une grande leçon pour moi. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas imposer un message, on ne va pas imposer un dogme, on ne va pas imposer quelque chose. On va rester chacun à sa place et chacun, on va ouvrir. Alors, ce qui est important, c'est de se cultiver, c'est d'ouvrir nos horizons, d'ouvrir. Voilà, je disais à Jonathan que j'aimais beaucoup ces chroniques dans le christianisme aujourd'hui parce que ça ouvre nos horizons, ça élargit l'espace de l'attente. Il faut élargir sans cesse l'espace de l'attente. Voilà.
Excellent. Merci pour la petite pub, petite chronique sur les tubes qui ont marqué l'histoire dans une perspective chrétienne. Il y a pendant 15 ans, j'étais traducteur-interprète du Congrès des artistes chrétiens. D'ailleurs, j'aurais dû tout à l'heure, dans le moment des annonces, faire une publicité pour le Congrès des artistes chrétiens qui repart aux Pays-Bas cette année. Il a été en Allemagne pendant quelques années. Il aura lieu à nouveau aux Pays-Bas cette année. Christian Artists Conference à Doorn, voilà. Donc allez sur le site Christian Artists 2018, Christian Artists 2018. C'est un contexte où vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes. Et voilà, moi j'ai une question pour toi qui m'a été posée au Christian Artists Conference il y a une quinzaine d'années. C'était un gars qui était luxembourgeois et il travaillait dans le cinéma. Et il a dit, je suis venu dans ce congrès des artistes chrétiens avec une question bien particulière. Je suis artiste d'effets spéciaux. Et 90% de mon revenu provient des films d'horreur. J'ai rencontré le Seigneur il y a quelques temps, je crois que c'est de mon souvenir de 3 ans. Et je vis une tension constante depuis ce moment-là. D'ailleurs, beaucoup de mes amis chrétiens me disent « Comment peux-tu gagner ta vie ?» en tant que chrétien dans le domaine des films d'horreur. Mais moi, je vis là-dedans depuis des années et des années. Tous mes amis sont là-dedans. Je témoigne tout le temps. Plusieurs sont venus à Christ. Si moi, je n'y suis pas, qui va leur parler du Seigneur? Parce qu'ils ne vont jamais à l'église, sinon. Qu'est-ce que tu aurais... Et alors, il est venu, il a dit, voilà, je suis venu à ce congrès pour qu'on me donne la réponse. Est-ce que je peux en tant que chrétien, continuer à gagner ma vie dans des films d'horreur. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu ?
C'est franchement la colle. Et alors, voilà, moi j'aime de temps en temps regarder des films d'horreur. Ça me fait pas... Si, ça me fait peur, mais ça me plaît de que ça me fasse peur. Mais j'aime pas les regarder tous. Et effectivement, je crois qu'il y a des choses malsaines qui traînent là-dehors. J'aime pas trop ce que Jason Blum fait en ce moment, qui est donc Jason Blum, pour situer, c'est un producteur américain qui, très intelligemment, a dit « on va faire des films d'horreur ». C'est assez facile de faire peur, en fait, quand on fait du cinéma. On va faire des films d'horreur pas chers, sans stars, et avec un budget plafonné. Alors au début c'était 2 millions de dollars, puis je crois qu'il est à 8 millions de dollars maintenant. Et puis on va faire au volume. Et en fait, donc on va en faire 8, 10, tous les 2 ans, etc. Et puis voilà. Donc il a trouvé qu'il a fait un tour de table, il a trouvé des financements. Et évidemment, comme il a trouvé des talents, parce que les talents sont toujours... à la recherche de pouvoir travailler donc, et s'exprimer, et ça a marché. Donc il a fait des gros succès, Insidious, ce genre de choses. Il y a toujours 2-3 films de produits par Jason Blum à l'affiche dans nos cinémas en France chaque année. Mais il est vraiment dans une veine de cultiver un horrifique spirituel, j'ai envie de dire. Et ça, alors, il y a de l'horrifique qui traite d'autres choses. Il a produit par exemple une série qui s'appelle Election Day ou un des opus
American Nightmare.
American Nightmare, merci, voilà. Donc on est sur une histoire beaucoup plus pragmatique, ça reste du film d'horreur mais on est sur quelque chose de beaucoup plus concret, etc. Voilà, donc déjà il faut se poser la question de dedans, qu'est-ce qui se passe dedans, il faut aller dans le détail des choses. Moi j'ai pas envie de condamner une chose ou une chose. J'ai un très cher ami que tu connais, David, qui est Thierry Cazazian. Thierry Cazazian, il fait du doublage. C'est un comédien français. Je vais vous faire la pub dans un instant pour un truc qu'il fait qui est vraiment génial. Et c'est un comédien français qui a choisi de faire que du doublage. Et donc, il double des documentaires, des films, etc. Et des longs métrages aussi. Et donc, quand on fait du doublage, ben, on doit doubler tout, quoi. Et donc, il me dit, ben, parfois, j'étais un peu mal à l'aise, effectivement. Donc, il faut trouver, effectivement, cet équilibre-là. Mais... Je refuse de condamner en général quelque chose. La grosse difficulté, elle est là. C'est de lire un scénario, de connaître des gens qui font des projets et d'avoir du discernement. Je veux dire, dans la Bible, il y a des histoires d'horreur. Ça existe dans la Bible. Heureusement qu'il y a des bons gens, personnes qui font des effets spéciaux pour faire, peut-être dans des films bibliques, des effets spéciaux de qualité. Parce que Jim Casillian, il n'a pas été crucifié quand ils ont fait La Passion. De Mel Gibson, il n'a pas été blessé. Il y a eu des gens qui ont fait des effets spéciaux de qualité, et grâce à ça le film La Passion du Christ a pu être un film de qualité, et heureusement qu'il y avait ces gens là qui faisaient ce métier là voilà, donc il ne faut pas jeter le bébé avec le vin, merci. Mais il faut avoir vraiment beaucoup de discernement, et je m'interdis de voir certaines choses. Il m'est arrivé de jeter des DVD, je me suis dit mais t'es fou quand je le faisais, mais si, parce que je n'avais pas envie que ça traîne chez moi. Il m'est arrivé de voir des programmes ou des films que je me suis dit merde, je ne peux pas lui faire ça, merci Seigneur de me protéger, Seigneur je te demande de et alors c'est un débat qu'on a toujours avec ma femme sur la pureté, justement. Ça, c'est un gros débat qu'on a dans les familles chrétiennes, je pense, hein, sur pas mettre tout devant les yeux, etc. Donc il faut être très prudent vis-à-vis des enfants, ça c'est clair. Et je pense qu'il y a un certain laxisme de la société française par rapport à ça, que ce soit la violence ou la pornographie ou ce genre de choses. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi être armé. Alors une fois ça m'est arrivé, une seule fois, et le Seigneur m'a protégé, je pense. C'était à l'époque où je vendais de la pellicule argentique, et je suis allé dans un bureau chez des producteurs, et visiblement ils allaient faire du porno, quoi, ou de l'érotique ou du truc comme ça. J'étais embêté. Et puis finalement, ils ne m'ont pas sollicité. D'accord. Voilà. Merci Seigneur.
Tu n'as pas eu ce dilemme.
J'ai pas eu ce dilemme.
Je pense qu'on est tout le temps amené à dire non à un moment.
Vas-y.
Oui, c'est ça.
Je pense qu'en tant qu'artiste, même si on est pur avec Dieu, si on veut être pur avec Dieu, c'est déjà lui demander du discernement sans cesse.
Oui.
Parce qu'effectivement, nous, on a nos idées, mais ce ne sont pas toujours celles de Dieu. Et on sera forcément amené, je pense que Dieu nous teste aussi, même si on a nos idées, il va nous tester dans notre humanité, et on sera amené à un moment donné à dire non, et ça peut nous coûter. Voilà. Moi, il y a pas longtemps, j'étais complètement à sec, et il y a une dame qui m'appelle pour acheter une de mes toiles, et dans cette toile, c'est une petite fille qui tend son doudou à Dieu, c'était pour pour expliquer qu'on doit donner tous les domaines de sa vie à Dieu avec la confiance d'un enfant. Et derrière, il y a une femme de crayonné qui tient une croix. Parce que le titre, c'est avec la confiance d'un enfant, te donner ce qui m'est important, toi qui as donné ta vie pour moi. Et la personne m'a dit, moi je vous achèterais bien cette toile. Par contre, je ne suis pas croyante, vous pourriez m'enlever la croix ?
Ah non.
Et j'ai dit, non, je suis désolée madame, mais ça je ne peux pas le faire. Mais la toile, elle n'aurait pas forcément moins raconté. Moi, mon fils m'a dit, maman, merci, quand même, t'as vu où on en est, t'aurais pu peut-être, qu'est-ce que ça peut faire ? J'ai dû lui expliquer, j'ai dû lui dire, non, parce que maman, il faut payer la cantine, maman, il faut ci, maman, il faut ça. Alors des fois, et quand j'ai dit non, mais j'ai senti le sourire de Dieu en moi, quoi. C'était vraiment, ça n'a pas de prix. Voilà, et je pense qu'il y a d'autres, il y a des expositions, des fois on peut nous appeler, on m'avait appelé pour faire une exposition. On dit oui parce que c'est une exposition qu'on faisait régulièrement, puis ils ont des thèmes en fait. Et là c'était sur les 7 péchés capitaux. On va pas la faire, parce que c'est pour se retrouver avec tous les autres qui. Non, c'est pas la foire à tout quoi. Donc non. Et voilà, c'est juste de rester. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a plein de gens qui regardent aussi qui on est. Et. Quand vous avez le courage de dire ça, je ne le fais pas, ou je crois en ça, y a plein de gens qui auraient bien voulu, mais qui n'ont jamais osé devant les autres, ils sauront se mettre derrière vous. Ils apprécieront de se mettre derrière vous, en fait.
Merci. Oui, n'hésitez pas à intervenir les uns par rapport aux autres, dans ce qu'il dit. Merci, Fabi, d'avoir fait ça. Je rappelle que le thème de la journée réseau artiste l'année dernière, des GBU, c'était « Jusqu'où peut aller l'artiste chrétien ?» Éthique, choix moraux, etc. Christelle, tu nous as parlé ce matin de ta pratique professionnelle. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te pose la question ? Quels sont les dangers qui guettent l'artiste chrétien qui a de l'ambition professionnelle ? Quel danger est-ce que tu aimerais prévenir ?
Bill en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec le fait que une ambition démesurée, une ambition qui arriverait trop tôt, elle met un voile en fait sur la réalité des choses et sur la réalité des besoins. Elle veut mettre un voile sur la réalité des besoins de cette personne en fait. Donc le risque c'est de se tromper. De pas faire les bons choix, d'écouter les sirènes, de se fourvoyer. Voilà, c'est un risque.
Alors pour éviter, il faut faire quoi ?
Travailler, j'ai dit ce matin, et je redis. je redis qu'il faut mettre à l'épreuve son talent.
D'accord.
Il faut mettre à l'épreuve son talent pour moi, vraiment. Pas pour dire peut-être que je n'en ai pas, mais c'est finalement plus constructif de s'apercevoir qu'on en a un et qu'il a du potentiel. Il vaut mieux travailler dans ce sens-là. On est sûr d'arriver à un endroit, au bon endroit. Peut-être un endroit qui dira finalement c'est pas ma voie. Ou de rentrer sur un chemin où on grandit en tant qu'artiste. Mais partir sur l'idéalisation d'une ambition, je ne sais pas si ça mène très loin.
Oui, moi j'ai une réponse face à ça aussi. C'est le début c'est l'ambition, alors mettre à l'épreuve son travail, oui, mais ne jamais arrêter de mettre à l'épreuve son humanité. Écouter Dieu, c'est bien, mais écouter son humanité. C'est-à-dire que quand on dit oui à quelque chose, ou que la situation nous dit non, qu'est-ce que ça fait réagir en moi ? Est-ce que ça fait réagir de la colère, de la jalousie ? Est-ce que c'est mon ego qui parle ? Pourquoi je veux ça ? Et en fait, en discutant sincèrement avec soi-même et avec Dieu, mais aussi avec soi, en se disant « qu'est-ce que je cherche là ?» Est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire ? Pourquoi je veux que ça me plaise ? En fait, c'est sans cesse se questionner soi-même aussi et être sincère et honnête et vrai avec soi. Parce qu'on peut mettre son talent à l'épreuve, être très talentueux, travailler beaucoup, 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 mais pour une mauvaise mauvaises ambitions quand même. Donc il y a des gens, moi je suis effarée quand je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des gens qui font des choses totalement glauques et mal inspirées, mais de façon merveilleuse. Enfin, ils sont tellement plus talentueux que moi, je suis désolée, moi je leur arrive pas à la cheville, je fais tout ce que je peux. Mais à un moment donné, on n'écoute pas ni Dieu ni notre humanité de la même façon, je pense. Voilà.
Ouais. Ok, merci. Oui, retour, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, Christophe.
Oui, bah excuse-moi, mais je crois que Dieu nous apprend aussi à renoncer parfois.
Ouais. Ok.
Et les portes se ferment. Et moi, ma vie est un témoignage que Dieu conduit, qu'il y a un plan pour Dieu dans nos vies. Il y a 5 ans, je n'aurais pas imaginé être là. David, tu en es témoin, il y a 5 ans, j'étais ailleurs. Voilà. Et garder les pieds sur terre, l'entourage, vous parliez tout à l'heure de votre famille, voilà, c'est nos meilleurs conseillers. Hein, la sagesse du roi vient du grand nombre de conseillers. Et des gens qui vous aiment avant ce que vous faites, sans ce que vous faites, sans ce que vous représentez.
Intéressant, voilà. Très intéressant, merci. Ouais. Est-ce que tu pourrais repasser le micro à Christelle?
Ah non, c'est pas terminé. Oui.
Tu as parlé, Christelle, ce matin, justement, du fait que tu n'es pas aujourd'hui, ou tu n'es pas parti avec un plan de carrière, avec avec un chemin d'ambition. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui peut-être t'a entendu et se dit, ah ben moi, j'avais quand même une idée assez claire de là où je voulais aller. Comment faire pour ne pas se tromper?
Oui, parce que l'histoire, c'est pas de ne pas avoir d'ambition. C'est quelle ambition on a? Quelle est la nature de l'ambition qu'on a? Attention. Hein, c'est pas... Donc, tu peux reposer ta question.
Tu nous as dit ce matin que tu n'as pas suivi un chemin tout tracé.
Oui.
Voilà. Si quelqu'un t'a entendu, il s'est dit, mince, moi j'ai quand même une idée assez claire de là où je veux aller. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de... comment concilier le fait qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire et que, bon, ils t'ont entendu dire, ben finalement, heureusement que j'avais cette souplesse de ne pas viser de manière trop rigide.
Ah oui, j'ai dit que c'est pas la règle. C'est-à-dire que il y a eu des moments dans ma vie où je savais où j'allais et d'autres moins. C'est-à-dire que ce matin, ce que j'ai raconté, c'était que j'étais dans un projet où j'ai vécu plein de choses enrichissantes, mais je n'en ai pas vécu.
Oui.
Voilà, il y avait un décalage entre ce que j'ai pratiqué, la pratique professionnelle que j'ai eue, les rencontres, les défis, les projets, et le fait que financièrement, je n'en ai pas vécu. Je pense que... Et donc, y avait une ambition au départ, mais... certainement que dans mon analyse du projet, il y avait des choses qui étaient fragiles, plus faibles. Néanmoins, ça m'a emmenée quand même là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que les rencontres ont fait qu'elles m'ont enrichie, elles ont enrichi mes compétences et elles m'ont même permis de rencontrer un directeur de théâtre avec qui aujourd'hui je forme un binôme. Et un travail dans lequel je suis extrêmement épanouie, où je me sens à ma place et j'en vis. Donc il n'y a pas de règle. Si on a un projet clair, enfin, en tout cas si on a une ambition assez claire, c'est-à-dire je veux aller là, on a le droit d'avoir ça. Et il y a des méthodes de réflexion, de mise à plat de projet, il y a une logique de mise en place qui existe. Enfin, voilà, il peut se faire accompagner, il peut réfléchir quel est mon rêve, quel est mon projet, quelles vont être mes prochaines actions, quel type de collaborateur ou de réseau je dois rencontrer, quelles sont les formations qui me manquent. Voilà, des questions extrêmement pragmatiques.
Je vais utiliser un terme qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui, je pense, et qui fait peur. Lorsque ton entreprise d'accompagnement ou de production d'événements gramophones, tu l'as mise en veilleuse, c'est le terme que tu as utilisé.
Oui, elle existe encore, mais je n'ai pas d'activité.
Voilà, alors quand tu l'as mise en veilleuse, est-ce que tu as vécu ça comme un échec?
C'était une tentation de le vivre comme un échec, évidemment. En même temps, je l'ai mis en veilleuse parce que ma vie personnelle a changé. puisque pendant 20 ans j'étais célibataire. Et donc pendant les 10 premières années de Gramophone, je pouvais travailler jour, nuit, week-end, ça n'avait pas trop d'impact sur les autres. Et puis ce que j'attendais depuis longtemps est arrivé, donc j'ai décidé que les priorités allaient changer de toute façon. Donc il y a eu plusieurs raisons pour se dire « Ok, quels sont les choix que je dois faire ?» Mais de temps en temps, quand j'oubliais pourquoi j'avais fait ces choix-là, parfois il y a une petite voix qui me disait « Mais t'as quand même pas réussi, quoi. » Si ça avait marché, aujourd'hui, Gramophone, tu en pleurais du monde, il y aurait autre chose. Bien sûr, il y a eu des mauvaises sirènes, mais... C'est resté une tentation parce que, à trois moments de Gramophone, dès le départ, en fait, quand cette société a été créée, comme je ne venais pas du tout du milieu culturel, que ce n'était pas un projet qui était dans ma tête depuis 10 ans, en me disant « un jour, je rêve d'eux », c'est arrivé presque en quelques mois, je dois le dire. Dès le départ... j'ai dit, écoute, Seigneur, en très peu de temps, tu me livres ça, tu le reprends quand tu veux, parce que c'est pas comme si j'étais accrochée à l'idée depuis des années. Donc, au cours de ces dizaines d'années, il y a eu 2-3 fois, à des moments critiques, la question, est-ce que j'arrête ? Mais le privilège que j'ai eu, la dernière fois que je me suis posé la question, c'est que je pouvais le faire dans un contexte paisible. Voilà. Donc, je me suis posé les bonnes questions. J'ai réussi à poser les bonnes questions pour me dire « Ok, maintenant, on va la mettre en veille. » Aussi pour faire un... La raison principale, c'était de ne pas courir plusieurs chevaux en même temps. La famille, le théâtre, l'entreprise, etc. C'était humainement, ça ne me semblait pas possible. Et aussi de faire une pause. D'accord. Voilà.
Intéressant, merci. Alors, le moment est venu, est-ce que vous auriez des questions, vous, à poser à Fabi, Christelle, Christophe ou Bill? Alors, de préférence des questions, si vous avez un témoignage ou quelque chose à rajouter, faites court, mais surtout privilégiez les questions à nos intervenants de la journée. Voilà, merci.
Je voulais juste quand même rajouter une chose, c'est que au début de ma carrière, donc, j'étais dans les industries techniques du cinéma, ça s'appelait, et donc évidemment, ceux qui commencent, ils viennent vous solliciter pour vous dire « C'est un peu cher pour moi, la pellicule et le laboratoire, est-ce que tu pourrais m'aider ?» etc. Donc j'ai vu beaucoup de jeunes réalisateurs défiler, et je ne parle pas du côté chrétien, mais je parle de la réussite artistique, et il faut bien prendre ces poignées-là, hein, parce qu'il faut bien le remettre dans ce contexte-là, mais les gens que j'ai vus arriver, ce ne sont pas les plus talentueux, ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les plus forts ou quoi, ce sont les plus déterminés. Et voilà, la question, elle est aussi là. Elle m'est arrivée dans ma vie, et j'entends qu'elle est arrivée dans la tienne aussi, c'est-à-dire que, et j'entends que c'est arrivé dans votre vie, mais peut-être que, voilà, il faut tous les jours faire bouillir la marmite, c'est aussi un enjeu quand ça arrive dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie personnelle ? Parce que, et c'est pour ça que j'ai mis des guillemets par rapport au côté aspiration chrétienne, parce qu'on peut très bien décider, ma vie, je la dédie à mon art, et je suis un chrétien qui dédie sa vie à son art, et je décide de ne pas avoir des enfants, etc. J'ai donc 3 enfants, donc à un moment, il a fallu aussi, voilà, j'ai choisi ça. Je me suis dit, Seigneur, écoute, moi j'ai envie d'être épanoui jusqu'à mes 99 ans, donc voilà, mes enfants, ce sera la couronne de ma vieillesse. Bon, c'est peut-être pas parti tout à fait comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un bonheur au quotidien et c'est un choix, voilà. Oui. Et c'est pas un choix antinomique, c'est pas un choix, voilà.
Merci, bien. Merci beaucoup pour ça. C'est riche, hein, cet après-midi. Merci beaucoup à chacun des intervenants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur demander? Voilà, la parole est à la salle.
Rien.
Quelqu'un au fond.
Oui, alors merci pour vos interventions à chacun. Et donc Christelle, ce matin, tu nous disais que personne ne nous attend. En même temps, il ne faut pas avoir trop d'ambition, mais en même temps, si on veut justement impacter notre société, il faut quand même oser. Donc,
c'est pas qu'il ne faut pas avoir trop d'ambition, c'est qu'il faut avoir la bonne ambition.
Il est trop drôle, mais il est parti.
Ah, il est parti. Ah oui, pardon. Oui.
C'est pas l'histoire d'avoir trop d'ambition. Hein.
parce que c'est l'histoire d'avoir une ambition qui est juste. Bien sûr que le missionnaire qui part en Afrique, il a une ambition, il a un projet, il a un rêve, il a envie de faire quelque chose. Donc le mot ambition n'a pas automatiquement une connotation négative.
Ah bah faut mettre
oui.
dans le jardin.
Alors, à un moment donné, il y a la prise de risque. Quand on est artiste, on est son propre gérant de société.
Ouais.
C'est pour ça aussi qu'il faut essayer de se poser des questions extrêmement pragmatiques qui sont pas très fun, qui paraissent pas très artistiques, pas très créatives, mais on est son propre... Alors après, bon, il y a des artistes qui, au bout de pas mal d'années, ne rêvons pas, arrivent à avoir un réseau de professionnels qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire un manager, un label de disques, un tourneur pour les concerts, et donc eux peuvent se consacrer plus à leur art, mais il faut qu'ils restent hyper vigilants quand même. Donc on reste quand même maître de son projet.
Moi, je voudrais juste, parce que c'est pour enchaîner sur ce que tu dis, et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé en tant que chrétien. Effectivement, on est là pour véhiculer, pour se laisser inspirer et véhiculer la parole de Dieu, oui. Mais si on s'entoure de gens pragmatiques à qui on amène notre projet, ils vont le voir de façon très, très pragmatique aussi. Ils sauront vous répondre de façon très sage, très posée, avec les paramètres qu'on leur a donnés par rapport à leur métier, leur sagesse, leur connaissance. Il y a quelque chose en tant que chrétien quand même qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est notre folie de foi. Personne ne l'aura pour vous. Mais personne. Ni vos parents, ni votre conjoint, ni vos enfants, ni les autres chrétiens de votre église. Et si Dieu a ouvert la mer en deux un jour... Si Jésus a guéri des malades, s'il a marché sur l'eau, il ouvrira aussi la mer en deux pour vous, même si tous ces gens pragmatiques vous disent « Oh ben non, tu sais, parce que regarde, t'as pas le budget, puis non, tu sais, ça va pas être possible, et puis tu viens d'où ? Oh ouais, mais là, t'as pas fait les bonnes études. » Parce que ces gens-là, si vous leur demandez conseil, c'est ce qu'ils vont vous dire aussi, ils sont là pour ça. Mais si la vision, vous l'avez reçue du Seigneur, que du Seigneur, qu'il vous donne du discernement chaque jour parce que vous le demandez, qu'il vous demande, lui, de mettre le pied dans le Jourdain, alors après, il va falloir croire que la mer peut s'ouvrir en deux, et il n'y a pas de raison qu'elle ne s'ouvre pas en deux, parce que Dieu tient cette promesse.
Merci.
Je vais devoir y aller.
Oui, alors Fabie va devoir nous quitter. Alors si vous avez une question pour Fabie, c'est maintenant ou jamais, parce que... Oui, ah, alors il y en a une, voilà.
Je reprends une question très très, très pratique. Est-ce que tu fais des prints de tes peintures ?
Des quoi ?
Des prints.
Pas de prints. Non, j'ai pas le temps, parce que... Alors, encore une fois, ça coûte aussi de faire des prints de mes peintures, donc
je ne le fais pas, et je fais des petites aquarelles toutes petites, voilà, que je vends sur Facebook et qui m'aident souvent à manger, qui ne dénigrent pas du tout ce que j'ai à dire, au contraire, et voilà, qui me permet de toucher tous les budgets et de faire des petites choses pour pouvoir manger et acheter des fois du matériel. Mais je ne fais aucun produit dérivé. C'est pas que c'est pas bien, c'est que j'en, voilà, ça m'intéresse pas pour le moment, en fait.
Ok.
Fabie, est-ce que tu vas faire un compte Instagram ?
Ah, alors, je vais être honnête avec toi, j'ai un compte Instagram, sauf que nous n'avons qu'un portable dans le couple, je n'aime pas les téléphones portables, Jérémy, on sait quelque chose, et donc il faut un téléphone pour pouvoir nourrir son compte Instagram, et c'est pour ça que le mien, il est très très pauvre de compte Instagram. Mais par contre, je suis très active sur Facebook, je réponds à toutes les questions, les messages privés, je discute beaucoup avec les gens, et je mets mon travail souvent pas à pas, donc voilà.
Ah ouais. Donc vous pouvez continuer à me poser des questions aussi sur ma page, j'y répondrai, je prendrai le temps d'y répondre. Et si vous avez aussi des inquiétudes ou des doutes, je serai honnête, sincère. Voilà, n'hésitez pas.
46 centimes le centimètre.
Non,
ça c'est une honnêteté totale.
Oui, mais je n'hésitais pas, il y a 20 ans.
Et
oui.
Bon, par contre, il va falloir qu'on parle banquier, mais
encore une question.
Enfin,
oui, c'est ça.
Oui. Moi j'ai une question par rapport à ton barème de prix. Comment est-ce que tu l'as déterminé quand tu étais jeune artiste? Est-ce que ça a évolué jusqu'à maintenant? Et
oui.
quelle est ton échelle de
alors,
mesure?
Quand j'ai commencé, je vendais mes peintures peut-être 100 francs ou 50 francs. Et puis bah, on me les achetait, et puis on me les achetait encore. Alors bah, du coup, j'augmentais un peu. Et après, je suis passée à 1000 francs. Enfin, tout le temps, tout petit à petit, c'est toujours. La demande, qui a fait mon offre. Jamais l'inverse. Et j'ai même, il y a, en fait, il y a
6 ans, pendant 3 ans, j'ai énormément vendu ma peinture, et là j'étais à plus de 52 centimes du centimètre carré. Pour vous donner une idée, une toile qui fait 1 mètre par 81 centimètres, c'est dans mes plus grands formats, je les vendais 4 500 €. Mais je les vendais. C'était une époque où je pouvais vendre 2 toiles par mois, voire 3. J'étais arrivée à ce barème-là parce qu'à un moment donné, je faisais 3 toiles par mois, comme je fais 10 heures par jour, il faut peut-être 10 jours pour faire une toile. Et je vendais 5 toiles dans le mois, alors j'en faisais que 3. Donc il fallait que j'augmente mes tarifs et les gens les achetaient par deux. C'était un truc de fou, c'est arrivé 3 ans. En fait, ça me faisait très très peur d'ailleurs, j'étais pas du tout. Enfin bref. Et donc j'ai augmenté mes prix pour que ça se régule, quoi, que je puisse au moins faire 3 toiles et vendre 3 toiles. Et puis petit à petit, il y a vraiment eu un moment de crise ces dernières années où du coup ça a été difficile de tenir la cadence. Mais comme j'avais déjà 15 ans de peinture, c'est difficile pour les collectionneurs qui t'ont acheté une toile à 4 500 € de voir aussi ton travail baisser. Parce que du coup ça dévalue forcément ce que tu fais. Moi j'ai des gens qui ont divorcé dans mes clients, les avocats m'appelaient. Donc pour me dire, mon mari a offert cette toile, a offert cette toile à sa femme, à l'époque il l'a payé 2 000 €, combien vous la vendez aujourd'hui? Aujourd'hui je la vends 2 500. Très bien, donc monsieur, pour garder la toile, enfin, devait la payer 2 500 € à sa femme, alors qu'il avait la facture qu'elle coûtait 2 000 €. Donc normalement c'est fait pour aller dans ce sens. Ma peinture a rebaissé, on a fait le choix il y a 2 ans et encore 1 an de rebaisser... mes tarifs, donc je suis descendue de 4 500, aujourd'hui c'est 3 002, je crois, ce format-là, pour pouvoir vendre plus régulièrement. On vend plus souvent des toiles en les vendant, les gens les achètent en payant 3 ou jusqu'à 10 fois. Et donc voilà, mais mon barème, je l'ai fait petit à petit, j'ai augmenté de centimes, de centimètres carrés par an au fur et à mesure. Voilà, quand j'ai pas bien vendu dans l'année, j'augmente pas mes tarifs, quoi. C'est voilà. Mais on ne l'a pas beaucoup dit, artiste peintre, on en parlait ce midi avec certaines personnes, c'est un travail qui nous coûte déjà beaucoup pour travailler. Donc c'est au moins 1 000 € par mois pour pouvoir travailler, acheter le matériel qui coûte cher, j'utilise de la soie, de la vraie feuille d'or, des dentelles de Calais, enfin, c'est du matériel qui coûte très cher. Il faut louer les salles, il faut faire la pub, il faut mettre l'essence dans la voiture. Quand on est loin, c'est l'hôtel aussi. Donc voilà, c'est un métier qui nous coûte très cher juste pour pouvoir apporter gratuitement souvent ça aux gens. Voilà.
Ok, merci. Bon, je pense qu'il va falloir que Fabien nous quitte.
Il ne faudrait pas le faire en train.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une au fond là-bas.
J'aimerais juste rebondir, et vous venez de dire tout à l'heure, et ouais, si le Seigneur nous a promis quelque chose, il a fait une promesse, il va l'accomplir. Parfois, on ne sait pas vraiment si c'est une promesse ou si c'est juste un cheminement qu'il veut qu'on fasse. Et parfois, je dirais juste pour prévenir, parce que on peut penser facilement que ouais, c'est une promesse de Dieu, on a eu un rêve et le Seigneur il a peut-être entre-ouvert une porte et on pense que c'est la volonté de Dieu, on y va, et d'un coup le Seigneur il dit non et il change la voie. Et donc juste voilà.
Et c'est pour ça qu'il faut écouter son humanité et voilà. Écouter, est-ce que c'est la promesse que Dieu a mis dans mon cœur? C'est comme quand on dit aux gens d'écouter leurs rêves. Le micro. On dit aux gens, écoutez, suivez vos rêves. Mais il y a une grande différence entre ce qu'on rêve, nous, et le rêve que Dieu met dans notre cœur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut s'écouter soi-même pour savoir, est-ce que j'essaye de faire rentrer Dieu dans mon plan, ou est-ce que je sais que Dieu a un plan pour moi, je suis sans cesse à l'écoute. Mais sans cesse à l'écoute, c'est marcher à vue. C'est-à-dire que si Dieu vous demande de vous mettre accroupi, il va falloir vous mettre accroupi. Et le lendemain, il vous demandera peut-être de courir. Et puis le surlendemain, de rester tapis dans un coin. Et puis après. Mais c'est toujours garder cette dimension que Dieu vous surprendra de toute façon, mais qu'il sera là. Mais il va attendre de vous que vous soyez à l'écoute. Et il fera peut-être différemment chaque jour. Mais la promesse qu'il a mise, c'est à vous de la retourner près de lui pour. Qui n'est plus du tout d'intermédiaire, qui n'est plus rien entre vous et lui, pour retourner savoir ce qu'il attend de vous. Et ça, c'est ce qui met à cœur. Vous savez, les moments où il est resté silencieux, où je n'avais plus rien, et pourtant j'avais ces idées dans mon cœur, elles étaient fort, fort, fort pour peindre. Et je savais que ça ne pouvait pas venir de moi. Ça ne pouvait pas venir de moi. C'était Dieu. Et voilà, c'est.
Merci. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va. on chemine vers la dernière petite question que moi je vais adresser à tous les trois parce ouais. que je
mais je ne voudrais pas louper mon train, je suis désolée mais je vais me perdre si je ne peux pas rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Alors, il y a 3 ans, non, il y a 2 ans, donc la première session qu'on a faite de ce réseau, c'était chrétien jusqu'au bout des doigts. Et une des questions que nous avons abordées ce jour-là, c'était pourquoi les églises ont tellement de mal avec les artistes et pourquoi les artistes ont tellement de mal avec les églises. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, probablement certaines ici, et on l'a un petit peu entendu aussi là, ont vécu de l'opposition. Je sais que Fabi en a vécu pas mal, de la part de son église locale, ou de personnes, pas de l'église, mais de personnes dans son église locale. Et voilà, moi j'aimerais vous poser un petit peu la question à vous trois. La personne qui veut pratiquer ou qui pratique dans le domaine artistique, qui veut s'intégrer du mieux possible dans son église locale et qui se fait critiquer, qui a du mal, comment vous les accompagnez? Que leur dites-vous?
Ça va vous sembler pas lié, mais je crois que ça l'est. Je crois qu'un des grands ennemis, aussi bien de la foi chrétienne que de la pratique dans l'art, c'est le perfectionnisme. Alors, dans l'histoire de l'art, chacun le sait, jusqu'à peu près au début du 19e siècle, l'art était art, petit a. À l'époque médiévale, on ne savait souvent même pas qui était l'artiste, c'était une équipe, c'était modeste. Et l'art avait comme but de d'aider dans la vie, de se souvenir des grands, etc. Au 19e siècle, l'art est devenu art A majuscule. L'artiste était censé devenir un prophète. Il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Et je pense que, pour revenir à cette question, beaucoup de gens dans l'Église ont cette conception de « Ah ben, l'art, c'est le prophète, c'est le très grand. » Et on connaît Pierre ou Jean depuis son enfance, et c'est pas ça. C'est un gars qu'on a bien connu, alors il ne peut pas être le visionnaire. Je crois qu'il nous faudrait une image beaucoup plus modeste du travail de l'artiste. Rockmarker, qui parlait beaucoup de cela, disait qu'en principe, la vocation de l'artiste n'est pas si différente de la vocation du bon plombier. Et alors on ne va pas dire à un plombier « Ah, quel prophète de notre temps, regarde comme il répare les tuyaux !» Non, l'artiste qui fait bien son travail a quelque chose à contribuer, il le fait de façon modeste. Mais je crois que le perfectionnisme est un grand ennemi. Un de mes cinéastes préférés, c'est Kieslowski, donc le grand polonais. Alors, il a fait une série sur la Révolution, il a fait une incroyable série sur les 10 commandements, Décalogue. Et alors, on ne peut pas tout aimer, tout recevoir, on ne peut pas dire oui ou non. Comme pour rappeler ce que tu as dit tout à l'heure sur les films d'horreur, il ne faut pas dire oui ou non à la catégorie. Mais à l'intérieur de ce style, il y a des choses à prendre et à laisser. Chez lui, il y a beaucoup de choses à prendre. Mais on peut laisser des choses. Et je pense que le chrétien doit éviter cette tentation de dire « Ah oui, ça, chrétien, oui, toc, toc, ça, non, non, non. » Il y a du bien, il y a du bienfait, il y a des choses qui sont admirablement accomplies, il y a des choses moins bien. Bon, il y a des tableaux qu'on peut à peine accepter, c'est vrai. Mais il me semble que la recherche du perfectionnisme, comme disait Francis Schaeffer, si tu cherches la perfection ou rien, tu auras rien à tous les coups.
Un mot à rajouter avant la fin?
Peut-être que l'artiste chrétien qui ne serait pas reconnu dans sa communauté et qui se sentirait terriblement frustré a certainement besoin de développer aussi d'autres réseaux. C'est-à-dire que on ne va pas lui conseiller de quitter son église locale. on va lui conseiller de trouver des réseaux dans lesquels il peut partager ce qu'il fait, il peut enrichir, nourrir sa créativité et apprendre à faire la part des choses entre ce pourquoi il est dans la communauté locale, il y est pour vivre quoi. Pas qu'on doive séparer, normalement on ne devrait pas séparer, mais juste pour l'aider à prendre un peu de recul, qu'il trouve d'autres réseaux, un endroit qui est propice à son développement artistique.
Ok, merci.
Alors j'ai plusieurs petites choses, mais moi le GBU, je vais faire une pub pour le GBU, parce que le GBU m'a donné cet espace de liberté, parce que donc, j'étais dans mon église locale il y a 30 ans, et voilà, dans un monde local, et même au niveau universitaire, quand j'ai commencé mes études, l'art, l'université, tout ça, ça n'existait pas, le cinéma, mais aller au cinéma, quoi, c'est pas l'université. Bref, on me disait tout ce genre de choses. En fait, j'ai fait pendant quelques années des chroniques sur le cinéma dans la Gazette des GBU à l'époque, et je me suis bien éclaté, et je mariais, je mettais dans ma petite rubrique, très amateur, mais je mariais toutes sortes de films, parce que je trouvais un fil rouge, forcément, il y a des fils rouges toujours dans l'actualité cinématographique, et ça élargissait la perspective, donc ça c'était une chose, et puis peut-être que ce qu'on peut, il y a quelque, je vois aussi quelque chose de très culturel. Alors le travail que j'occupe aujourd'hui, vous en doutez, m'ouvre les horizons aussi vers un milieu luthéro-réformé, catholique, etc. Et donc il y a quelque chose de très culturel à cette recherche de se préserver qui est dans des églises évangéliques, peut-être plus, et il faut aussi chercher à atteindre d'autres sensibilités, hein, parce que si on doit être missionnaire quelque part, c'est pas obligé de voyager ou comme ça, mais c'est aussi de toucher nos voisins, quoi, ceux qui habitent à côté de l'église. Peut-être que eux, ils aiment bien finalement les films d'horreur, et peut-être que si on fait un film d'horreur un peu intelligent, ils viendront peut-être à l'église. J'avais organisé comme ça.
Ils sont plus d'horreur dans nos églises.
J'avais organisé un festival de cinéma à l'époque, et on avait passé Kislovski, et évidemment ça déstabilise quand on passe Tu ne tueras point, ou quand on passe je ne sais plus lequel du décalogue on avait passé. Oui, ça déstabilise, parce que Kieslowski, il a une approche un peu crue parfois, ça un peu dure, beaucoup. Ça dérange, mais c'est quelqu'un qui est en recherche, et ça, il faut le respecter, il faut toujours respecter les gens qui sont en recherche. Voilà. Et puis enfin, on est aussi. J'ai beaucoup aimé ce que disait Fabi sur tout ce qui était compté, le marketing de la chose, etc. C'est on n'est quand même pas des créateurs, quoi. On est des créateurs à notre niveau, mais on n'est quand même pas, quoi. Moi, je ne me mets pas dans cette catégorie-là, mais la création, elle reste limitée. On est dans du pragmatique, on est dans de la matière, on est dans de la pellicule, on est dans de la toile, on est. Voilà, on n'est pas. On ne fait pas lever le soleil quand même, hein, c'est pas nous, voilà. Donc, gardons juste mesure.
Oui, ok. Ah ben, merci pour cette belle parole de la fin.